Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle.
C'est non.
Qui vient de me voir, c'est une merde, Noé.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et vous me parlez Travelling et gros plans.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Vive le cinéma!
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, sixième jour de captivité. Eh ben, regardez-moi ça. Eh ben, voilà, hein. Ça fait moins les malins, dites donc. Ça fait moins les marioles ce matin, hein. Faut pas parler trop fort ce matin. C'était pas la même histoire hier soir quand vous êtes rentré à pas d'heure au milieu de la nuit, hein. Ça fait les beaux, là, dans les soirées privées avec les starlettes de la jet set et les belles robes et les beaux costumes à rentrer à pas d'heure. Ça pique un peu plus fort ce matin, hein, quand je parle là, hein. Ça fait mal à la tête un petit peu, voilà.
Simon, t'as encore ton bâton,
le
là.
Teint est cireux, la laine est fétide, le regard est vitreux. Elle va être longue la journée, hein.
Très
et
longue.
Ben, bien fait pour vous, je vais faire exprès de parler plus fort pendant tout ce podcast.
Je vais te couper au montage intégralement.
Allez, la censure, là, c'est parti, là, les petites... Bonjour, les amis, comment allez-vous?
Ça va, très mieux. Bien. Et toi,
pas
Nicolas
top, quand même, hein.
Là, ça va un peu mieux, maintenant,
là, ça va un peu
fort.
Mieux.
Bon, franchement, ça va.
La projection du matin, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié d'y aller ce matin, dites donc, hein.
Chut.
Voilà. Eh bien, on va parler de films quand même. Ce serait pas mal que l'un d'entre vous se brosse les dents parce que ça sent très fort, hein, d'ici. Bon, bref, c'est pardon. Et pour commencer, je vous propose d'écrire vos bonnes idées, comme par exemple de m'accorder 2 heures de sortie quotidienne au lieu d'une.
Non.
Dans un petit livre, un petit livre. Que, tu vas, va te laver les dents, toi, au lieu de me parler. Bah, recule un peu. Ne me parle pas dans le. Oh.
Je vais rien
oh,
dire.
Oh, mais... la vache. Petit livre que je mettrai à votre disposition, qu'on appellerait donc le livre des solutions, puisque c'est également le titre du nouveau film de Michel Gondry avec Pierre Niney et Blanche Gardin.
Bienvenue dans ton camiontage. Alors, ici, un premier écran avec ton montage principal et 2 autres écrans à travers le pare-brise que tu peux voir là avec tes rushs. Bien, approche-toi. Ici, avec ce clignotant,
ton mari est mort,
je mets play.
10 ans maintenant.
Et avec clignotant à gauche,
ça va le coup.
Pour mettre pause.
Alors, le livre des solutions, allons-y, on y va. Bah, Sophie.
Bah oui, je pense que c'est le film que j'attendais peut-être le plus cette année. Michel Gondry, c'est le.
Tu attendais beaucoup de Monia Chokri quand même, si je puis me permettre.
Oui, mais alors Monia Chokri, c'est, on va dire que c'est un amour récent. Parce que c'est son 3e film. Michel Gondry, c'est quelqu'un qui nourrit ma cinéphilie depuis son tout premier film, mais puis même avant, depuis sa période de clip. Et c'est sans doute l'artiste, et je ne mets pas que réalisateur, c'est l'artiste que j'admire le plus. Parce qu'en fait, dans son cinéma, je trouve qu'il arrive à combiner beaucoup d'univers, et notamment un art graphique qu'on voit avec du stop motion et autres, qui reprend dans certains de ses films, parfois non. Par exemple, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est sans doute le film qui lui vaut cette, ou qui lui a valu cet amour pendant longtemps, n'en contient pas, alors que notamment La Science des Rêves ou Be Kind Rewind de Soyez Sympa Rembobiné en contient beaucoup. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a une patte et un monde qui lui est propre, et c'est pour ça que c'est juste mon artiste préféré.
Donc, on peut peut-être rapidement préciser de quoi parle le film, parce que c'est un film extrêmement personnel, limite frontière autobiographique, tout en restant une comédie.
Oui, alors de quoi ça parle? Ça parle d'un réalisateur qui s'appelle Mark Baker, qui... est parti avec son film sous le bras parce qu'il n'avait pas un aval 100% positif de la part d'une prod, de sa prod, au moment du montage et de la finalisation de son film.
La prod veut même lui retirer complètement son film parce qu'elle trouve que le montage n'est pas intéressant, et donc ça commence par une scène où on lui dit, on récupère le film et on va le monter sans toi et t'as plus de mots à dire.
C'est ça, et donc il décide de prendre son film sous le bras avec une équipe toute restreinte, à savoir sa monteuse qui est incarnée par Blanche Gardin et son assistante personnelle, enfin en tout cas une aide multitâche, un vrai couteau suisse qui réserve aussi bien ses demandes personnelles que ses demandes de plateau. Et en fait, il va s'exiler chez sa tante dans les Cévennes pour finir son film, donc à trois. et avec sa tante.
Et, voilà. À 4, puisqu'il y a, comment il s'appelle, Pablo ? Non.
Ah oui, j'avais oublié.
Ah oui, Carlos.
Carlos. Et Carlos, qui en fait, c'est un peu drôle parce que Carlos, il en veut pas. Donc en fait, j'ai un peu zappé parce que vraiment, il part juste avec, sa monteuse et son assistante. Et Blanche Gardin assiste pour avoir, elle, son assistant monteur et son ami, hein, tout simplement. Et on est face à un personnage. Très très complexe, qui est incarné par Pierre Niney et qui est un peu cette espèce de double fantasmé de Michel Gondry. Et il s'en cache pas, hein, parce que même la ressemblance, genre il y a une espèce de mimétisme vestimentaire, de gestes, de paroles, et Michel Gondry s'en cache pas que c'est une fiction autobiographique ou une bio-fictionnelle. De quoi ça parle en réalité ? Ça parle de quelqu'un qui a des troubles neuroatypiques ou une... En fait, c'est jamais précisé, hein, mais qui a une forme d'anxiété médicalisée, en tout cas. Et comment ce personnage va réussir à dépasser ou au contraire s'enfoncer dans ses névroses et comment ça va avoir des impacts radicaux sur le film, dans le bon sens comme dans le mauvais.
Oui, parce que le film commence aussi au moment où il arrive dans les Cévennes par le fait qu'il arrête de prendre ses médicaments.
C'est ça.
Voilà. Donc il devient en roue libre, en fait.
Complètement. Voilà. Et notamment, son point d'ancrage, c'est sa tante. Pareil, le film est dédié à Suzanne, qui est la tante de Michel Gondry.
Non, qui est sa grand-mère.
Non, c'est sa tante.
Ah bon ?
Ah oui. C'est sa tante.
Ah, c'est sa tante.
C'est sa tante.
Je pensais que Suzanne, c'était sa grand-mère.
C'est sa tante. C'est sa tante Suzanne, non, mais... sur lequel il a fait un documentaire qui s'appelle L'épine dans le cœur, où en fait il va filmer cette dame avec toute sa famille, enfin toute la famille proche de Michel Gondry. Et en fait, il a une telle admiration pour cette femme qui est littéralement, il le redit dans le film, la femme qu'il aime le plus au monde. Et comment c'est la seule personne qu'il comprend. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans L'épine dans le cœur, on voit à quel point c'est une dame aussi très dure. C'est quelqu'un qui a une vraie forme d'autorité et qui avait ça grâce à son travail dans l'éducation et qui a su avoir toujours beaucoup de patience, beaucoup d'amour et en même temps pas mal de fermeté vis-à-vis de son neveu. Et il se trouve que malheureusement, Suzanne, qui se fait appeler Suzette aussi, elle est décédée il n'y a pas très très longtemps. C'est pour ça que le film lui est dédié. Et moi, je trouve que c'est un film absolument magnifique. Ça a l'air très, très drôle en apparence. La salle a beaucoup ri. Et il y a un tempo comique que moi, je n'avais pas retrouvé quasiment depuis la Science des rêves, mais qui était un petit peu plus absurde, un peu plus doux. Là, il y a un vrai tempo, notamment de dialogue, qui, je pense, vient beaucoup de Niney et de Blanche Gardin. Et là... toute la salle riait, moi, je voyais par contre beaucoup de tristesse parce qu'il fallait une tonne d'autodérision pour réussir à se présenter avec ses propres troubles de cette manière-là et d'avoir une vraie introspection pour pouvoir dire qu'on a été capable de faire beaucoup de mal aux gens, d'être égoïste, juste parce que... Et en plus, ce qui est intéressant, c'est pas un portrait d'artiste fou qui fait tout pour son film, c'est vraiment, il est dépassé par ses névroses et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit « Je suis malade, mais le seul truc que je peux faire dans ma vie, c'est des films. » Et c'est pas une excuse, mais en fait, les deux sont pas conciliables. C'est pas quelqu'un qui dit c'est de faire des films qui me rendent malade, c'est « Je suis malade, mais je fais des films, et malheureusement, les gens en pâtissent. » Et moi, c'est un truc qui m'a bouleversée.
Il faut peut-être préciser, Arthur, qu'effectivement, c'est une comédie. On rigole beaucoup, surtout particulièrement au début de cette folie, parce que c'est vraiment aussi un portrait de troubles psychiatriques. Hein, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à rester sur une idée, qui passe toujours d'une idée à l'autre, qui ne finit par ne rien faire et qui est dans une sorte de délire, de fuite en avant. Et en même temps, ce rire... petit à petit devient de plus en plus grinçant parce que cette folie est aussi une folie qui fait du mal et qui fait beaucoup de mal aux personnes autour de lui qui le pardonnent jusqu'à un certain point.
Bah en fait, moi, ça m'a un peu perturbé. On l'a vu avec Nicolas à la séance de 11h45 et Sophie et Alexis l'ont vu, eux, à 20h30. Il me semble que les projos du matin-midi à la quinzaine, c'est un peu des projos presse. Et c'est la première fois que je vois... autant de journalistes rire à un film à Cannes. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Et effectivement, moi, j'ai été assez perturbé parce que il y a un moment où le film est vraiment très drôle. Hein. Enfin, vraiment, on rigole vraiment toutes les 2-3 minutes et des rires vraiment francs. Et il y a moi des moments où vraiment je ris, mais aux éclats. Et puis tu sais, quand tout le monde rigole, du coup, t'es.
Et tu fais comment quand tout le monde rigole
C'est toi le Père Noël.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle la bidoche, tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu un moment où moi, j'étais mal à l'aise que les gens rigolent parce que ce que je voyais à l'écran, soit me mettait moi mal à l'aise, soit me rendait triste. Parce qu'il y a effectivement le fait qu'il est horrible avec les gens avec qui il travaille. Il est horrible avec Blanche Gardin. Il est horrible avec son assistante. Il est horrible avec tout le monde. Sauf avec sa tante qu'il aime beaucoup. Mais il est horrible avec tout le monde.
Avec qui il finit par devenir horrible aussi. Hein. C'est-à-dire que jusqu'au
bout.
Bien
sûr. Mais jusqu'au bout, en fait. En fait, il y a ce travail d'introspection qui est vraiment intéressant. C'est ce qu'a dit Sophie. Sauf que. À un moment, on voit les dégâts que ça provoque. C'est-à-dire, on lui pardonne parce qu'il est malade, on lui provoque parce que c'est un génie, mais qu'il est malade. On lui pardonne, à un moment, on ne peut plus le pardonner. Et ben moi, il y a un moment où ça ne me fait plus rire.
Ouais, mais
et c'est ma petite limite.
Et il y a un moment donné où il devient violent.
Bah ouais.
Je veux dire, ça il glisse vers une violence qui finit par devenir une violence physique.
Et moi, c'est mes quelques limites avec le film sont liées à ça, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Hein. Vraiment, je trouve ça très fort, très malin, très intelligent, très bien mis en scène. Enfin, on retrouve du Gondry,
on en parlait,
mais juste mes limites sont que du coup, j'ai un petit peu l'impression de voir un cinéaste qui se justifie d'avoir été un salaud sur le tournage, même si on sait que c'est à cause d'une maladie. Et parce qu'il y a un arc de rédemption, je trouve qu'il arrive dans le film de manière très soudaine. Mmh. Ça passe par une histoire d'amour qui, au début, n'existe pas. Et d'un coup, boum, elle existe. Et elle justifie un peu tout. Et ça amène à des très beaux moments. Moi, la scène des pieds, la scène des mains sur la table, je trouve ça vraiment magnifique. Mais voilà, je trouve qu'il y a un peu un moment, une rupture de ton et de rythme. Et c'est dommage parce que tout le reste du film fonctionne bien. Et c'est vrai que ça amène à une réflexion sur est-ce qu'il fait ça pour se dédouaner de ses actions ou pas, mais on en a beaucoup discuté hier avec Sophie et Alexis, je vais leur laisser la parole.
Mais alors, justement, c'est intéressant parce que, comme nous le disions nous-mêmes il n'y a pas très longtemps à ce micro, un film se fait dans son époque, on ne peut pas faire abstraction du contexte.
Et quand puis, on est à puis, Cannes. Mania Chokri faisait son discours sur
exactement
ça.
Exactement, sur ça, sur le plateau et sur la bienveillance. Et quand on est à Cannes, à un moment donné, où se pose la question du harcèlement sur les plateaux, des gens qui sont des tortionnaires avec leurs équipes, c'est le portrait, Alexis, d'un harceleur.
Oui. Oui, non mais complètement, à 200%. Après, je pense qu'il y a quand même une petite nuance à apporter par rapport au discours de Monia Chokri. Je pense que Monia Chokri fait référence à des cinéastes qui, en connaissance de cause, torturent psychologiquement leurs équipes et surtout leur casting, parce qu'ils partent du principe que c'est comme ça qu'on obtient quelque chose de vrai, quelque chose de puissant. C'était la grande école de Maurice Pialat. Hein. Maurice Pialat, notamment sur le tournage de À nos amours, mais tout au long de sa filmographie.
Et Kubrick, enfin, je voilà,
ou de Kechiche.
Aussi, Abdelatif Kechiche, c'est des mecs qui...
Que des mecs,
poussent,
par ailleurs.
Bien sûr, oui. Qui bon, poussent leur casting dans leur dernier retranchement pour obtenir quelque chose de puissant. Mais de
non,
une...
Mais tout le monde me regarde, ouais. On parle de Catherine Corsini aussi cette année. Enfin, voilà. Je veux dire, bon, bref,
c'est rien,
de Maïwenn, bref.
De une, Monia Chokri fait référence à ceux qui font ça sur les plateaux de cinéma. Le film de Michel Gondry ne parle pas d'un tournage. Hein.
C'est vrai.
Le film de Michel Gondry explique comment ce mec-là, qui effectivement est déjà au bord de la dépression nerveuse au début, apprend que le film qu'il a tourné ne plaît pas du tout au studio, qu'il le trouve merdique, qu'il va perdre le projet et que potentiellement c'est un de ses anciens associés qui va reprendre la main plus ou moins en le trahissant au passage. Il pète les plombs, il part avec son film, sauf que à aucun moment il n'est dit que le personnage est un harceleur pour pouvoir aboutir à quelque chose de grand artistiquement. Il n'en branle pas une de tout le film. Et surtout, arrive un moment où son entourage l'excuse en permanence, effectivement.
Tout le temps. Et jusqu'à un point qui est parfois un peu difficilement tolérable.
Non,
hein,
non,
toute fin.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que son entourage est sous emprise. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a un moment où son entourage lui dit, en fait, les excuses, c'est mort. Et là... Il y a une rupture. Il y a une rupture de ton, parce que le film cesse instantanément d'être drôle, alors que jusqu'à là, il était hilarant. Il y a une rupture de point de vue, parce que d'un seul coup, le personnage commence vraiment à se rendre compte de tout ce qu'il a fait comme chose malfaisante et néfaste autour de lui. Et donc, c'est pas tant une question de rédemption qu'une question de... C'est un film qui nous raconte comment un artiste se rend compte qu'il a complètement pété les plombs et complètement torturé son entourage, et comment il peut rebondir après ça, comment il peut essayer de transformer tout ce marasme-là en quelque chose de potentiellement positif, surtout pour lui, mais aussi un peu pour les autres et pour tous ceux qui ont subi ça. Moi, je trouve que c'est un film qui est plutôt fort là-dessus.
Oui,
il y a effectivement des ambiguïtés, mais c'est des ambiguïtés qui ne sont pas inconscientes. C'est des ambiguïtés que Gondry assume complètement, tant dans son écriture que dans sa mise en scène. Donc pour moi, le film n'est pas problématique.
Oui, notamment, on parle d'artiste, de génie ou quoi que ce soit. Je pense que Gondry ne se présente jamais comme un génie.
Ah, bon. Ça, je ne sais pas.
Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Parce qu'il y a une voix off dans tout le film où justement, il n'arrête pas de se dire
putain,
je suis brillant, faut pas que je le dise.
Ouais. Non, l'un et l'autre.
Il est bipolaire.
Il a des troubles obsessionnels, des troubles compulsifs. Il a des crises de paranoïa. Il a des vrais problèmes psychiatriques lourds.
Oui, mais par exemple de ce qu'on voit du film, et notamment, certes, il dit qu'il est génial, mais c'est quand même un mec qui passe son temps à ne pas vouloir voir son film parce qu'il ne peut pas se confronter au fait que potentiellement il l'ait raté. Donc un génie ne fait pas ça. déjà. Il y a une forme d'autosatisfaction permanente qui, là, n'existe pas. Il est en souffrance. C'est un personnage en souffrance. Ouais. Ce qui n'excuse rien, mais c'est un personnage qui n'est pas dans un truc de « je suis génial et je torture pour créer de l'art ». Il n'y arrive pas. Il est juste
c'est lui-même sa propre victime.
Enfin, et notamment, les extraits de films que nous, on voit avec l'incrustation du rat géant qui poursuit quelqu'un, ou la manière où il reproduit, on ne va pas se mentir, il reproduit une scène de L'écume des jours où, en fait, c'est Audrey Tautou et Romain Duris qui sont sur un nuage et il le refait. C'est la scène que vous pouvez voir en image. C'est Pierre Ninet avec deux jets d'eau. Et en fait, devant, il a reproduit un truc un peu à l'arrache. C'est pas du génie. Genre, il montre un personnage qui se confronte potentiellement à son propre échec. C'est pas de la glorification de la part de Gondry sur la part d'un cinéaste qui est génial. C'est quelqu'un qui repousse sans cesse le fait de se confronter à son travail. C'est pas quelqu'un qui a un ego trip permanent.
Mais là où je suis assez d'accord avec Sophie et Alexis, c'est que moi, je ne perçois à aucun moment le fait que ce film serait un film où Michel Gondry cherche la rédemption ou cherche à dire « excusez-moi d'avoir été comme ça ». C'est un film, au contraire, que je trouve assez courageux, dans le sens où il faut avoir du courage pour représenter ses propres troubles psychiatriques à l'écran de cette manière-là, pour se représenter comme un salaud, parce qu'il se représente comme un salaud. Et là où, en revanche, je suis relativement d'accord avec toi, et moi, le seul bémol que j'ai à ce film, c'est effectivement cet arc final de rédemption que je trouve pas forcément tout à fait nécessaire. Quand il allait au bout, vraiment, de la violence qu'il infligeait aux autres, y compris pour sa tante, puisque ça, il termine par s'en prendre à elle alors que c'est la personne qu'il préfère au monde, et bien d'un seul coup il y a une rupture, et sur les 10 dernières minutes il nous laisse entendre que malgré tout il peut être sauvé par l'amour.
Ça tombe
un peu comme un cheveu sur la soupe.
Mais moi je suis d'accord avec vous, moi je trouve ça extrêmement courageux, je trouve ça extrêmement intéressant, voire même important de parler de... Oh, tu fais suer, on est jour 6 de Cannes, mince.
Chier, tu fais chier.
Non, j'essaie de pas être vulgaire.
Ah, pardon.
Ma mère écoute.
Bon, bisous maman Arthur.
Moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec tout ça. Et le problème que j'ai, c'est qu'il y a des scènes où, en fait, c'est un film qui est beaucoup plus autobiographique que tout ce qu'on a pu dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on le sait, c'est littéralement ce qui s'est passé. La maison à laquelle elle a tourné, c'est vraiment la maison de sa tante. Il y a une scène qui est vraiment la meilleure scène du film et de loin, qui est une scène avec un orchestre. Vous verrez quand vous verrez le film, c'est génial. C'est littéralement ce qu'a fait Gondry un jour dans un studio. Sauf que c'est une scène où il montre que je crois en moi, personne ne croit en moi, je prouve aux autres que je peux le faire. Il le fait, il y arrive. C'est un peu un génie. Et tu sors de la scène en te disant, c'est vrai que c'est un peu un génie. Sauf que Gondry, il explique en interview qu'à ce moment-là, à cet éclair de génie-là, il aurait aimé que tout le monde dise, oh mon Dieu, je suis brillant, et personne ne l'a fait. Et bien dans le film, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Blanche Gardin qui le regarde et qui l'admire. Donc il modifie un petit peu la réalité pour le rendre plus sympathique. Il y a plein de moments, et ça aussi, il a dit en interview, je le sais parce que j'étais là hier au Junket, où il explique qu'il a été obligé de rendre le personnage de l'assistante et de la monteuse plus conciliante avec lui. Parce que sinon, il paraissait trop comme un salaud. Donc, ça veut dire bien qu'il a un peu modifié la réalité pour se rendre un peu un bon rôle qui justifie des choses.
Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste parce que c'est aussi... on n'en parle que comme d'une espèce d'analyse psychanalytique. C'est aussi un film. Et c'est un film qui est une comédie. Si tu le rends complètement comme un salaud, genre sinon, ça marche
pas, c'est
tu
vrai.
Vois.
Non, c'est vrai, t'as raison.
Si lui, il a conscience qu'il a dû modifier la réalité à des fins purement cinématographiques, mais que lui ne se cache pas et dit pas non, au final j'ai pas été si méchant, et qu'il dit j'ai changé la réalité, c'est peut-être pour aller sur l'axe comédie.
Non, c'est vrai, t'as raison.
On en parlait hier avec un autre camarade journaliste. Effectivement, quand on traite à ce point-là de manière aussi frontale des troubles psychiatriques que Michel Gondry dépeint, il y a deux options. Soit effectivement on bascule dans la comédie et on les transforme, ce que Gondry fait, c'est-à-dire comme de la matière à rire, c'est-à-dire vraiment avec du recul et de l'absurde. Soit de l'autre côté, si on veut le traiter frontalement, on sombre immédiatement dans du drame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure dans la façon d'aborder ce type de sujet. Et je trouve que la façon dont Gondry le transforme et l'expose en poussant un peu les potards, en exagérant un peu, et peut-être même pas tant que ça. Je trouve qu'il y a une forme de courage que je ne perçois pas comme un geste, comme un ego trip, comme un geste narcissique.
Non, je suis d'accord. Moi, je dis juste, c'est peut-être une des potentielles limites. En tout cas, gardez ça en tête.
Peut-être un mot, parlons du film aussi, parce que là, on parle du fond, mais j'aimerais bien qu'on parle de la forme de ce film, la mise en scène, effectivement. Alexis, qu'est-ce qu'on peut en dire? On y retrouve, comme l'a dit Sophie très justement, certains passages obligés ou certains éléments centraux du des films de Gondry, avec du stop motion, avec une sorte d'interlude découpé très très drôle au milieu. Plus généralement, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mise en scène?
Bah, niveau mise en scène, je trouve que c'est un film qui est quand même plus sobre à mon sens que les précédents films de Gondry. En tout cas, disons que c'est un film qui tourne moins autour de concepts. Si vous prenez The We and the Eye, qui était un film, je crois, son avant avant-dernier film, si ma mémoire est bonne,
qu'il avait tourné
à New York dans un bus où il suivait un groupe d'étudiants, enfin un groupe de lycéens ou de collégiens, je crois, du Bronx. Et en fait, le concept, c'était qu'on ne quittait jamais le bus. Et donc, il avait, avec ses équipes, évalué comment on pouvait faire tourner le bus en boucle dans le quartier sans jamais passer par les mêmes rues pour que le spectateur ne se rende pas compte que l'itinéraire est toujours le même. Et c'était assez fort visuellement, mais ça nécessitait quand même une mise en scène extrêmement conceptuelle. Là, c'est pas le cas. Le film est beaucoup plus sobre, beaucoup plus par instant entre guillemets classique, mais au milieu de cette mise en scène classique, il y a plein de petites touches gondriesques, ouais, qui arrivent vraiment avec, je trouve, beaucoup de charme et beaucoup de subtilité. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé esthétiquement, c'est que je trouve que c'est un film qui a trouvé le juste milieu parfait entre le classicisme et puis les espèces d'éclairs fantaisistes que Gondry affectionne.
Alors, c'est une question, parce que moi, je n'ai pas encore pu voir le film. Est-ce à dire qu'il est un petit peu dans le même genre de tonalité visuelle que sur Microbe et Gasoil, qui, moi, me semblait déjà aussi un certain équilibre?
Non, on est vraiment plus proche de La Science des Rêves.
D'accord.
Parce que Microbe et Gasoil, au contraire, il y a une forme de naturalisme presque, genre, en plus, c'est beaucoup dans la nature, alors que là, on est entre les deux.
Très rapidement, en un mot, et pas comme en plusieurs phrases, comme vous avez pris l'habitude de le faire ces derniers jours, point fort, point faible, phénomètre. Sophie, point fort.
L'autodérision.
Point faible.
Peut-être l'histoire d'amour.
Phénomètre.
10 sur 10.
Alexis.
Point fort, Pierre Niney, je trouve, dans un de ses meilleurs rôles.
Et puis, il y a un truc qui recoupe avec Michel Gondry, c'est-à-dire quelque chose où Pierre Niney, à ce moment de sa carrière, il y a vraiment quelque chose qui résonne entre les deux.
Je trouve un tout petit peu sous-exploité le personnage de... Mais vraiment un tout petit peu, hein. Le personnage de...
Blanche Gardin.
Non, pas de Blanche Gardin.
Carlos.
Pas Carlos. Pas
Denise.
Voilà, merci, Denise. J'ai oublié le nom de l'actrice, en fait.
Françoise Lebrun.
Françoise Lebrun, merci. Que j'adore, en plus. Et je la trouve un tout petit peu sous-exploité. Elle aurait pu être un tout petit peu plus présente. Bref, c'est vraiment du pinaillage. Phénomètre, 10 sur 10, c'est un film hilarant. Vraiment, c'est hilarant.
Arthur.
Le thème, l'autodérision, je suis d'accord, en point fort. En point faible, pareil que Sophie, moi, c'est cette histoire d'amour qui arrive un peu. Ça traque de rétention. Et le phénomètre, 8 ou 9. Parce que je trouve que des fois, on rigole avec des trucs qui ne sont pas censés être drôles.
Point fort, moi, je trouve que c'est vraiment la représentation de la folie, ou en tout cas des troubles psychiatriques. Je trouve que vraiment peu de personnes ont réussi à aller aussi loin et à le représenter comme ça, avec ce ton de comédie. Point faible, histoire d'amour finale, indiscutablement. Phénomètre, on est sur du 9-10. Indiscutablement également. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt livre des solutions ou journal des problèmes? Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. En 30 secondes, vite fait, histoire de passer rapidement. En 30 secondes, vite fait, mal fait. Arthur, tu nous parles de Only the River Flows de Wei Shun Jun, que tu es le seul à avoir vu parce que t'es comme ça. Toi, tu vas voir des films tout seul dans ton coin.
Oui, je suis allé voir un film tout hier, à 14h, j'avais envie. C'est un film chinois, c'est un thriller qui se passe dans la Chine en 1995. Un meurtre qui n'arrive pas à être résolu, puis on croit que c'est quelqu'un. Enfin, bref, un classique thriller qui m'a fait penser à un autre film qui était en compétition il y a 4 ans, Le Lac des Oies Sauvages, qui est un super. Super film de Diao Yinan. Non, c'est un film qui est extrêmement impressionnant, qui va sortir chez Advitam bientôt, donc on en reparlera. Un petit peu classique, un petit peu lent, mais il y a une scène de cauchemar au milieu qui m'a bouleversé, vraiment.
Vite fait, mal fait, Sophie, tu nous parles du Temps d'aimer de Katel Kilvere, que tu es la seule à avoir vu, parce que t'es comme ça, tu vas avoir des films toute seule dans tout le monde.
Ah bah d'accord.
Non, c'est parce que j'adore Katel Kilvere, c'est son troisième film, et en fait... Le Temps d'aimer, ça a les mêmes qualités, les mêmes défauts que ses précédents, à savoir que c'est une réalisatrice extrêmement ambitieuse dans sa narration, et elle veut jamais se focaliser sur genre une petite histoire courte. Elle fait ça sur plusieurs générations, en tout cas sur une durée très longue. C'était déjà le cas de Suzanne, son premier long métrage, un peu moins sur Réparer les vivants, mais elle avait fait un format choral, donc encore une fois c'était très large et très... fourni. Là, Le Temps d'aimer, ce que j'aime beaucoup, c'est son histoire. C'est l'histoire de cette femme qui s'est fait tondre après la guerre et qui a un enfant, du coup, qu'elle a beaucoup de mal à aimer, et qui tombe amoureuse de manière réciproque d'un homme qui, lui, est homosexuel, et comment ils vont vivre leur amour, un véritable amour, mais qui ne peut jamais être complètement abouti non plus, parce qu'elle a ses traumas, et lui, il se sert malgré un peu de ça pour se cacher dans une société en évolution, vu que ça se finit quasiment dans les années 70. Donc j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est trop long et elle a du mal à le finir. Mais c'est quand même super. Et c'est Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier qui tiennent le film. Elle a perfection.
Et pour finir, après le procès Goldman de Cédric Kahn, dont nous vous avons parlé jeudi dernier, qui est, je le dis, je le répète, un immense film, on se disait qu'il allait être difficile de faire mieux en termes de cinéma procédural. C'était sans compter sur Anatomie d'une chute de Justine Triet, l'histoire de Sandra, Samuel et leur fils malvoyant Daniel, qui vivent retirés dans un chalet à la montagne. Quand Daniel revient d'une promenade avec son chien et découvre le corps sans vie de son père, la première hypothèse naturelle est celle du suicide, mais les enquêteurs en ont une autre, celle du meurtre.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm sorry to interrupt. I'm sorry. But I don't know. You come here, okay, with your maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just, it is just a little part of the whole situation. You know.
Justine Triet, Sophie, c'est une réalisatrice que tu aimes beaucoup, que tu suis, et on a vu le film ensemble, Anatomie d'une chute, tu aimes beaucoup aussi.
C'est un immense coup de cœur, je vois pas comment ça ne peut pas repartir avec quelque chose selon moi. Justine Triet, c'est une des réalisatrices les plus intéressantes qu'on a en France, c'est ce que je vous avais dit également pour Monia Chokri au Québec. C'est son 4e film après La bataille de Solferino, Victoria et Sibylle. Et en fait, à chaque fois, je trouve qu'elle prend en force. Là, ici, c'est vraiment, pour moi, justement, l'ampleur, encore une fois, de son récit qui est... Qui est foudroyant, elle est beaucoup plus ambitieuse que dans ses précédents et je trouve qu'elle arrive parfaitement à lier une forme de tension, quelque chose qu'elle avait expérimenté avec Sibylle et l'émotion qu'elle avait plutôt expérimenté dans Victoria et dans La bataille de Solferino. Donc je trouve qu'on est un peu sur un condensé de sa filmographie, le film est long, il fait quand même 2h30 et c'est à la fois pour moi l'immense force du film, c'est qu'elle arrive à aborder toutes les thématiques, parce que c'est vrai que tout le monde le compare au procès Goldman, pour moi ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que on filme deux procès que ça veut forcément raconter la même chose de la société, c'est pas parce que tu filmes deux courses de voiture qu'il y en a une où tu vas pas genre montrer la performance mécanique et l'autre au contraire la tension d'un pilote. Enfin tu racontes ce que tu veux avec une histoire. Et là pour moi ce que ça raconte, c'est de la médiatisation du procès. C'est comment on va déshumaniser comment on va créer des monstres à partir de situations auxquelles on est extérieur. Comment on va nous mettre nous dans la place de juré, mais en nous grattant la corde sensible du féminin, de la maternité, parce qu'elle fait toujours de très très beaux portraits de femmes. Et là, Sandra Hüller, elle crève l'écran. Elle nous avait déjà vraiment foudroyé dans le Jonathan Glazer. Là, elle revient avec un registre complètement différent. Et je trouve que c'est un film brillant. Et je voudrais résumer le film à une phrase. Son personnage qui dit oui, ok, quand on perd, on a tout perdu, mais quand on gagne quoi à la fin d'un procès ? Parce qu'en vrai, ça parle de la destruction d'une vie suite à quelque chose de tellement éprouvant que peu importe en fait le résultat final. Ce qui n'est pas du tout le cas du procès Goldman, qui raconte quelque chose d'historique. Et je tiens juste à dire que c'est une fiction à 100%. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant avec ces deux films mis en regard, Alexis, c'est que ce sont deux façons radicalement distinctes de traiter un procès historique d'un côté, un procès fictionnel de l'autre. Ce sont deux façons de parler de la justice. C'est montrer que ces deux films explorent des veines radicalement différentes, mais qui sont toutes les deux tout à fait passionnantes.
Bah, c'est surtout que le procès Goldman, outre sa reconstitution minutieuse du procès de Pierre Goldman, il nous dit quelque chose sur la société de l'époque, mais aussi par le biais d'une parabole sur la société de maintenant, qui est que quand on est dans une logique parole contre parole, ce qui est le cas du procès Goldman et de beaucoup d'autres affaires, on pourrait citer encore récemment Amber Heard, Johnny Depp, quand on est parole contre parole, eh ben le problème c'est que on accorde toujours par principe beaucoup plus de crédibilité à la parole du système qu'à la parole de celui ou celle qui le combat, quand bien même celui ou celle qui le combat bah, dit probablement la vérité, ce qui a été le cas pour l'affaire de Pierre Goldman. Là, on est effectivement dans une logique différente puisque c'est une histoire de fiction et que donc bah, le spectateur n'a pas les moyens de connaître l'issue du procès avant de voir le film. Donc l'enjeu narratif numéro 1, bah, c'est justement l'issue du procès, c'est le verdict. Et c'est un peu là qu'est mon problème. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes de pur récit, de pure narration, et je parle autant d'écriture de scénario que de manière de mettre en scène ce scénario-là, et surtout de le monter, parce que je trouve que Justine Triet a un sens du montage qui est assez spectaculaire, et ce depuis Victoria, je trouve que c'est le film le plus soigné de Justine Triet. Il est certes classique, mais c'est un classicisme qui est extrêmement abouti, extrêmement méticuleux. Il y a des très beaux plans dans le film, il y a des très belles séquences, il y a des très très beaux chants contre chants pendant le procès. Vraiment, c'est un film qui, je trouve, esthétiquement est de grande qualité. Le seul problème, c'est que je trouve que c'est un film qui tombe dans le piège de 80% des films de procès, c'est-à-dire que une fois qu'on a atteint le verdict, une fois qu'on a atteint l'issue de cette histoire-là, ben en fait, on se rend compte que le film ne dialogue avec rien d'autre qu'avec lui-même. Mmh. C'est un film qui ne me dit rien de la société, qui ne me dit rien de notre monde, qui ne m'offre aucun élargissement intellectuel. Alors certes, il est très prenant parce qu'il est très bien raconté, plutôt bien filmé, très bien monté et très bien joué, mais je reste sur ma faim parce qu'en fait, c'est un film que je n'ai absolument pas du tout besoin de revoir, que je n'ai pas besoin d'intellectualiser. Pour moi, à partir du moment où on arrive au terme de cette histoire-là, le film n'a plus de raison d'exister dans ma mémoire, et c'est un vrai problème parce que c'était pas le cas de Victoria et c'était pas le cas de Sibyl non plus. Donc pour moi, c'est une régression.
Ouais, je le trouve un peu sévère là-dessus parce que je trouve une histoire très très belle, très bien racontée, très bien interprétée.
Big up à ce jeune acteur qui joue le fils.
Milo Machado Graner qui joue le gamin de 7 ans, qui est dirigé. Moi, j'ai rarement vu depuis Thomas Gioria dans Jusqu'à la garde, j'ai rarement vu des enfants aussi bien joués. Il est bouleversant, enfin vraiment, là il y a un gros travail de direction d'acteur avec ce môme qui est assez notable. Arthur.
Moi je suis un petit peu d'accord avec Alexis, même si j'irai pas aussi loin que lui. J'adore Justine Triet et vraiment je suis un grand fan de Sibyl que j'avais vraiment beaucoup défendu. Je trouve qu'il est un peu en deçà. Parce que vient de dire Alexis, je suis un peu d'accord, mais pas que ça. Moi, j'ai un problème avec l'écriture du film, qui est dans les dialogues assez fine et assez bien faite, mais je n'ai aucun doute en fait de la culpabilité ou pas du personnage de Sandra Hüller. Et de ce fait, moi, j'ai un vrai problème avec le personnage d'Antoine Reinhardt qui joue l'avocat général. L'avocat général, donc qui va essayer de prouver qu'elle est coupable.
Et qui interprète aussi, qui a un rôle incroyable parce qu'il a un niveau d'agressivité.
Bah c'est ça, moi, qui me gêne.
De méchanceté, ou enfin pas de méchanceté, mais enfin.
J'ai une question du coup pour toi, Arthur, et même pour les autres. Mais vous êtes convaincu qu'elle est innocente, pas de souci. Vous n'avez pas peur que lui, il est tellement agressif qu'il arrive à pervertir les jurés et qu'elle puisse se prendre une.
Parce que ça fonctionne, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme
ça. Peut-être, mais à la limite, peut-être. Mais de toute façon, le truc, c'est que moi, vu que je la crois innocente, ce personnage-là m'est absolument insupportable.
C'est son rôle.
Oui, mais
c'est
il m'est insupportable à un point où moi, ça me sort du film parce qu'en fait, j'ai juste envie de le taper. Et donc, moi, je ne pouvais plus suivre le récit, j'arrivais plus parce qu'en fait, je le trouvais insupportable, je le trouvais cliché et un peu caricatural sur les bords. Je trouvais qu'il en faisait des caisses dans ce côté à vouloir l'accabler coûte que coûte sur des trucs qui, en fait, qui ne tiennent pas la route parce que.
C'est exactement comme ça que se déroule un procès. Hein. Vous avez un procès aux assises, à un moment donné, l'avocat général, quand il n'y a pas de partie civile.
Que je ne l'ai pas ressenti comme ça sur Goldman.
C'est lui qui a charge de démontrer la culpabilité de l'accusé, puisque en France, on est innocent jusqu'à preuve du contraire.
Je suis d'accord, mais vu qu'on le compare avec Goldman, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti dans Goldman. Où je trouvais que c'était plus équilibré. Et ça m'étonne d'autant plus que, vu que.
Dans Goldman, c'est l'avocat des parties civiles, Arthur. C'est pas l'avocat général. C'est l'avocat des parties civiles qui cherche à condamner Goldman, puisqu'il représente les familles des victimes. Donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même démarche.
Oui, mais attends, il me semble, ce que veut dire Arthur, c'est que le film n'arrive pas à lui transmettre en quoi cette situation est normale et en quoi comment il devrait, lui, spectateur, la recevoir.
J'ai l'impression que la cinéaste me dit, il est horrible et c'est injuste ce qu'elle vit. en permanence. Donc en fait, moi, je suis pas sur un équilibre en me disant ah peut-être qu'elle est coupable, peut-être qu'elle est pas. Mais je dis ça en aimant vraiment le film aussi.
Moi,
hein,
c'est là où je suis en désaccord avec vous, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Alexis, quand tu dis que comme tous les procédurales, ça tombe dans le piège de se dire ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'elle est coupable ou est-ce qu'elle est pas coupable. Moi, je trouve que ce qui m'intéresse et ce que je trouve passionnant dans cette proposition de Justine Triet, c'est que elle nous fait vivre le procès par la corde émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle nous raconte surtout, c'est comment cette mort, la mort du père, va d'un seul coup dérouler devant nos yeux l'intimité d'un couple, le rapport d'une mère à son enfant, de ce lien qui peut triompher ou non de l'exposition brute des faits, puisque c'est l'un des enjeux majeurs dramatiques du film, c'est la présidente du tribunal qui dit au gamin « Demain, je ne veux pas que tu viennes parce qu'on va rentrer dans le dur et ça va être, ce que tu vas entendre va être dur. » Et le gamin lui répond « Mais de toute façon, je veux venir, alors que c'est un gamin de 7 ans, parce que je l'apprendrai d'une autre façon. » Et donc, il va voir la vie de ses parents dérouler sous ses yeux, leur intimité dérouler sous ses yeux. Et on voit bien que la pièce maîtresse de ce film, c'est le personnage du gamin qui est encore une fois remarquablement interprété. Mmh. C'est lui qui va avoir entre les mains l'issue du procès sans rien en dire. Et c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que par rapport au procès Goldman, qui est effectivement un film, et tu as tout à fait raison, qui résonne avec son époque, Anatomie d'une chute est un film qui ne parle que de l'intimité d'un couple, que l'intimité de cette femme, et qui va dérouler et déployer ses rapports en les posant finalement en enjeu dramatique. Parce que la clé du film aussi, et le basculement, c'est la diffusion du témoignage enregistré qui est filmé en flashback et qui d'un seul coup nous montre que les apparences et que ce qui nous est présenté de ce couple depuis le début n'est en fait effectivement qu'un mensonge, ou a été en tout cas une partie de mensonge qui peut potentiellement changer la donne.
Mais sauf que je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est un film qui, avant toute chose, parle de l'exercice judiciaire.
Mais pas du tout.
Non, je suis pas d'accord du tout.
Mais non,
pas
mais vrai. Justine Triet, de toute manière, elle a toujours parlé du couple. C'est son sujet principal, du couple ou du duo.
Mais c'est pour ça que je trouve que ce film est une régression, parce que je trouve que sur les thématiques qu'elle aborde d'habitude et qu'elle arrive à approfondir et à connecter avec des grands sujets, le désir, le deuil, la perte de l'innocence, etc.
Il les reprend tous. La perte de l'innocence du gamin, le deuil du père, la déchirement du couple.
C'est repris, mais c'est pas incarné et c'est pas approfondi, ce qui n'était pas le cas
dans le film. Pour toi, si tu veux.
Avec le gamin, avec elle.
Mais je trouve pas que le gamin soit incarné. Le gamin est une fonction.
Mais
le gamin
tout,
occupe.
Mais
bien sûr que
du
si.
Du tout, Alexis.
Bien sûr que si.
Pas du tout. Non, enfin, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le gamin est pas du tout une fonction. Au contraire, c'est un
on
personnage,
en
personnage
complexe. Complexe.
Mais on en parlera quand le film sortira en salle.
Point fort, point faible, palmomètre et phénomètre.
Oula, le point fort justement pour moi, c'est sans doute la reprise de ces thématiques et l'émotion qu'elle arrive à en dégager. C'est-à-dire que moi, j'ai été en larmes littéralement toute la deuxième partie du film parce que elle vient gratter là où ça fait mal. Et auprès de tout le monde, moi, je trouve que le film est assez universel sur la destruction de l'intimité.
Oui,
et je trouve que c'est magnifique.
C'est ma préf, ce film.
Toi aussi, c'était mon préf. Le point faible, je trouve que le film met longtemps à démarrer. J'ai eu une petite baisse de régime dans la première demi-heure que je trouve au contraire justement très classique et un peu formelle. Phénomètre, c'est pas parce que j'ai eu deux énormes éclats de rire nerveux que je vais pas le mettre à moins 1000.
Quand est-ce que t'as ri ?
Il y a un cut sur le gamin qui remet un peu tout le monde à sa place et il y a une pause de 2 secondes sur la juge et la salle a explosé de rire.
Ah ouais ?
Ah mais vraiment on était tous...
et palmomètre, Sophie ?
Palme de l'univers, palme de mon cœur.
Plus que le glazer ?
Bah pour moi, si je devais donner une palme, ce serait au trier, pas au glazer. Mais c'est mon cœur. Je pense qu'elle irait au glazer, mais ma palme de cœur, c'est le trier.
Alexis.
Point fort, l'interprétation de manière générale. Point faible, ouais, le fait que le film, moi personnellement, le film émotionnellement me touche pas du tout et intellectuellement, je trouve, est un peu plus limité que les films précédents. Phénomètre. Bah moi, je mettrais quand même un 4 ou un 5 parce que je trouve qu'en termes de rythme et de tempo de narration, on est quand même très embarqué par le film. Il y a un certain plaisir de spectateur à sentir que l'histoire va à 200 à l'heure et qu'elle va jamais nous lâcher.
Le film dure 2h30, voilà. On s'emmerde pas une
exactement.
Seconde.
Exactement.
J'ai pas gagné un montre une seule fois.
Il faut le souligner. Hein. Il faut le souligner quand même. Vraiment. Moi, je mettrais le phénomètre à peu près au milieu parce que c'est quand même assez divertissant d'être emporté par un film. Palmomètre, je lui donnerai pas la palme, mais je pense qu'il mérite une récompense, ne serait-ce que Sandra Hüller en interprétation. Par exemple.
Arthur.
Point fort, cette reprise de Baka Horizon and Steve Burn de PIMP de 50 Cent qu'on écoute environ 8 fois dans le film et qui est un morceau
plus que ça.
Sorti il y a 6 ans et que j'adore.
Qui est glaçant du coup, qui prend une tonalité.
Et ça me fait chier parce que du coup je pourrais plus danser dessus, mais c'est un morceau vraiment que j'adore. Point faible, le fait que je trouve que le film est effectivement n'a pas la résonance que ce que pouvaient avoir les autres films de Trier chez moi, donc c'est très personnel, mais moi je trouve qu'il est un peu moins puissant. Phénomètre, moi je me suis pas beaucoup amusé, même si c'est vrai que c'est effectivement on voit pas le temps passer, on s'y accroche, donc on va dire 4, mais c'était pas un 4 en mode
comment
arrête de me demander de refaire des rires, je n'y arrive pas.
En mode
exactement. Et Palmomètre, moi on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, on vous en parlera demain, mais je peux pas donner l'interprétation à Sandra Hüller parce que on a vu un film avec Simon avec Alicia Vikander, et du coup maintenant je sais que ça ne peut pas être arrivé à Sandra Hüller. Du coup Palmomètre, je sais pas.
Eh ben ça c'est précis, moi.
Est-ce que tu peux garder ça,
est-ce qu'on peut le garder ça, s'il te plaît, pour montrer aux gens dans quelles conditions je travaille.
Voilà, c'est, bah, on va la garder celle-là.
Merci.
Voilà,
en l'occurrence, techniquement, c'est dans quelles conditions moi je travaille.
Ouais. Point fort, moi je trouve que le gamin, tant dans le rôle que dans l'interprétation, est absolument sidérant. Point faible, peut-être une mise en scène un peu classique et qui n'a pas beaucoup d'idées à part justement un plan incroyable autour du gamin qui se retourne entre l'avocat et les parties civiles,
ça
qui
oui,
est remarquable.
Ça oui.
Et le lip-sync du père aussi à la fin qui est formidable.
C'est vrai. Et je me suis fait remarquer que ces deux plans-là m'ont vraiment fasciné.
Phénomètre, je suis comme Alexis, c'est passionnant, on ne lâche pas. Enfin, vraiment, c'est un film qui vous attrape du début à la fin. Palmomètre, moi je suis d'accord pour le prix d'interprétation pour Sandra Hüller, mais peut-être pas, certainement pas la palme. Et vous, est-ce que... Alors oui, donc, pardon, ça s'appelle Anatomie d'une chute de Justine Triet avec Sandra Hüller et Swan Harlow, qui est peut-être un peu le point faible aussi, parce qu'il tire pas bien son épingle du jeu.
Ah ouais,
mais
j'ai jamais trouvé aussi beau.
C'est vrai qu'il est très beau, avec sa crinière comme ça. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt mauvaise chute ou... Vous connaissez l'histoire de la chaise, elle est pliante.
Waouh.
Putain.
Mauvaise chute, pardon. Pour finir, notre séquence érotique quotidienne, grâce à notre own private Michel Leb, qui lit un extrait de Fugue américaine de Bruno Le Maire avec la voix d'Emmanuel Macron.
Non mais attends, Simon, et là, il n'a pas parlé d'un seul film, il est là juste pour lire son passage.
Exactement. Mais c'est pas Simon, c'est Emmanuel Macron.
Ah pardon, excusez-moi, monsieur le président.
Alors, je vais me permettre de mettre en avant pour vous un passage intéressant du livre, qui est un passage du livre où on va découvrir Muriel de Body, qui est un personnage secondaire mais néanmoins fondamental, qui est une femme au foyer, et ça défraie la chronique. Elle planifiait des camps d'été en vérifiant que les meilleures familles y avaient bien inscrit leurs enfants, et concluait ses journées affalées dans un sofa de soie mauve, un verre de Martini Rosso à la main, en poussant un soupir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour ces gosses ? Elle invita une fois le père Culpe à dîner et fut effarée par son appétit.
J'ai peur.
Qu'est-ce qu'il dévore, le curé ? Et il boit aussi. Il m'a bien sifflé une bouteille de Valpolicella à lui tout seul. Elle était assise dans le sofa en soie mauve et elle se curait les dents en dissimulant le cure-dent de sa main tournée vers sa bouche. Une bouteille de Valpolicella à lui tout seul, Franz. Tu imagines ? Je te laisse ton curé. Il a une drôle d'odeur en plus. Il ne doit pas se laver très souvent. Muriel était terriblement à cheval sur l'hygiène corporelle. Elle passait 1 heure chaque matin dans sa salle de bain. Le rituel, m'avait raconté Franz, son mari, commençait par des frictions à l'eau glacée sur sa poitrine pour préserver la fermeté de ses seins.
Il va jamais s'arrêter, là.
Elle en a fait une fixation, tu sais, la fermeté de ses seins. Comme si elle devait perdre toute féminité le jour où il commencerait à tomber. Comme nous, notre virilité, quand nous perdons nos cheveux.
Waouh.
Merci, monsieur le président.
Mais heureusement qu'il a le bouquin dans la main, parce que vraiment, je ne le verrais pas en train de lire le livre. Je douterais de la véracité de ces passages. Vraiment.
Fou, non, c'est fou.
Voilà, les amis, le cinéma, c'est la vie, Cannes, c'est la mort. Le programme pour vous aujourd'hui, à part cuvée. Et ben voilà, vous savez quoi ?
C'est pas vrai, j'ai des interviews et des films.
Vous savez quoi ? Je vais prendre l'une de vos petites cartes, là, de tour de cou, avec la carte en plastique, et puis je vais aller... Je vais aller faire la cuisine.
S'il te plaît, Nicolas.
Bye, les amis, et gloire à la liberté.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.